France Musique.
Très bon week-end Nicolas Lafitte et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Chers auditeurs, bonjour. Ce matin encore, Fabrication Maison vous invite à entrer à la Maison de la Radio côté coulisses. Dans le portrait, rencontre avec une personnalité pleine de passion, le jeune organiste Thomas Hospital, premier organiste en résidence à Radio France. Dans le reportage, nous nous intéresserons au lien entre musique et cerveau pour préparer la conférence du 4 juin qui se déroule ici. Marie Fauché, dans sa chronique, jouera à la magicienne avec des filtres d'amour. Puis viendront les fabuleuses archives de Jean-Yves Patte, la lettre de l'un d'entre vous et enfin, un choix musical pour le cœur, signé Sophie Jadin. Fabrication Maison, c'est parti.
France Musique.
Bonjour Thomas Hospital.
Bonjour.
J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir Thomas. Vous êtes récemment nommé organiste en résidence ici à Radio France.
Tout à fait, c'est
vous
une vraie
qui
chance.
En charge de notre nouveau-né.
Voilà, absolument, je serai le premier organiste en résidence et c'est une vraie joie pour moi parce que finalement j'assiste au premier cri du bébé.
Exactement.
Je lui change les premières couches entre guillemets et donc c'est une vraie joie. Bon, je suis ravie, vraiment.
On va faire votre portrait en musique, Thomas Hospital, et ce sera un petit peu l'occasion de vous rencontrer pour les auditeurs de France Musique. Alors on commence tout de suite avec Maurice Ravel's Poma.
Thank you.
Thomas Hospital, magnifique version de la valse de Maurice Ravel. C'est un clin d'œil à Saint-Jean-de-Luz, la ville natale.
Oui, en effet, je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil à mes origines basques. Alors plus exactement de Cibourg. Je suis organiste à Cibourg et d'ailleurs Maurice Ravel est né à Cibourg en fait. Je suis très attaché toujours à cette ville, même si malheureusement avec toutes les activités que j'ai maintenant, je ne peux pas m'y rendre très souvent. Mais effectivement, donc c'est un petit clin d'œil à la fois voilà, à mon côté basque, mais aussi je dirais à cette passion que j'ai vraiment pour le compositeur et pour sa musique. Et notamment cette pièce, La valse de Maurice Ravel, qui me fascine.
Oui, on en parlait pendant qu'on écoutait, avec ce côté très obsessionnel. Cette obsession de la valse, quand même, vous le disiez, on la retrouve dans beaucoup de ses musiques.
C'est vrai que vraiment, la valse est chez Maurice Ravel quelque chose qui l'obsède, puisque en fait, elle est omniprésente dans sa musique. Que ce soit Mamerlois, que ce soit Daphnis et Chloé, que ce soit aussi les interludes de Mamerlois. Enfin, énormément de passages, les valses nobles et sentimentales. Beaucoup de passages sont obsédés par cette valse. Je ne sais pas quel est le lien étroit en fait, et quelle est la raison qui le pousse à avoir ce lien si fort avec cette danse, mais il est certain qu'il l'utilise. Et comme par hasard, elles finissent toujours mal.
Elle se délite constamment.
Il lutte avec cette danse, en fait. Il finit toujours par les détruire, en fait. Mmh. C'est, je pense, psychologiquement assez intéressant à analyser.
Bon, on va pas faire de psychologie ce matin, mais il y a aussi quelque chose qui est magnifique chez Ravel. Ce qui vous fascine, c'est l'orchestration.
Tout à fait. Et c'est là où vraiment je suis toujours fasciné à entendre ça, parce que si vous voulez, orchestration n'est pas non plus le bon mot, en fait. Il se passe autre chose quand on écoute ça. Ce n'est pas simplement un choix d'instrument, un choix de couleurs qui sont associées, mais c'est des phénomènes qui se créent. Et c'est ça qui me fascine. Et d'ailleurs, si jamais vous aviez besoin de transcrire cette musique, c'est là où vous verriez vraiment les limites des possibilités de transcrire cette musique-là, parce qu'en fait, finalement, on sent que la genèse de cette œuvre, c'est aussi le timbre qui lui est associé. Et c'est ça qui me fascine, au-delà de tout, dans la musique de Maurice Ravel.
Quel dommage qu'il n'ait pas écrit pour orgue.
Ça, c'est sûr que c'est extrêmement dommage. Mais je pense qu'il aurait connu l'orgue de Radio France que nous avons maintenant. Je suis persuadé qu'il aurait écrit.
On passe à Franz Liszt maintenant. Thomas Hospital, on écoutait un extrait de cette magnifique pièce Orpheus de Franz Liszt, interprétée par l'ensemble Les Siècles, que dirige François-Xavier Roth. Liszt, c'est un compositeur qui vous est cher.
Tout à fait, qui m'est particulièrement cher. Déjà sa vie, je pense que c'est une vie plus
c'est
que fascinante.
Ouais.
Sa vie est un roman, d'ailleurs ouais. Il y a un livre qui s'intitule comme ça. Ouais. Et c'est vrai, sa vie est absolument fascinante, un destin peu commun, je crois. Mm. Et sa musique, la manière dont en fait il a ouvert des voies, vers la tonalité en fait. L'explosion de la tonalité, je dirais plutôt ça. Vraiment le fait qu'il n'y ait plus de limites, mais aussi sur la forme, sur l'utilisation des instruments. Bien sûr, le piano, mais on ne sait pas, l'orgue aussi. Il a ouvert complètement les voies de l'utilisation de l'orgue, notamment par sa pièce Ad nos ad salutarem undam, où finalement, il a, pour la première fois, imaginé une musique et il s'est dit, maintenant, avec cette musique, je vais faire vraiment une pièce orchestrale à l'orgue et je vais utiliser l'orgue pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ensemble de couleurs, et je vais essayer de trouver comme ça les registrations qui pourront mettre comme ça en valeur certains passages, certains thèmes. Là aussi, c'était à l'époque une nouvelle conception de l'utilisation de l'orgue. Et pourquoi aussi j'ai choisi ça? Parce que finalement, je vais enregistrer mon premier disque à Saint-Eustache au mois d'août.
Dont vous êtes titulaire récemment.
Absolument.
Vous êtes un des plus jeunes titulaires de Saint-Eustache, non?
Je pense, oui.
Oui. Et c'est quand même un bel endroit. Hein.
C'est un lieu fantastique.
Et l'orgue est une merveille.
Le lieu est plus qu'inspirant, avec une acoustique exceptionnelle. Architecturalement, ce lieu vous parle, forcément. Mmh. C'est un lieu habité. Donc, c'est une vraie joie d'être là-bas, de pouvoir faire de la musique dans ce lieu-là. Et donc, j'ai voulu consacrer mon premier disque à Franz Liszt, notamment avec une transcription d'Orpheus, que nous venons d'entendre, aussi de Funérailles, cette grande pièce Ad nos ad salutarem undam, et d'autres pièces, d'autres transcriptions comme ça qui seront présentes, justement pour mettre en valeur aussi les multiples possibilités de l'orgue.
Alors justement, pour entendre un petit peu ces possibilités de l'orgue, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait d'une œuvre de Thomas Lacote, The Fifth Hammer. Donc c'est Thomas Lacote lui-même qui était à l'orgue dans cette pièce de Fifth Summer qu'il a composée. Vous parliez de modernité, de recherche sonore, etc. On l'entend bien, cette pièce, c'est ça.
Oui, tout à fait. Alors plus précisément, il n'est pas seul puisque c'est une pièce à quatre mains. Oui. Voilà. Donc j'ai eu la chance aussi de jouer cette pièce il n'y a pas longtemps. Et en fait, je suis fasciné par le travail de Thomas Lacote parce que finalement, il sort un petit peu des sentiers battus dans l'identité même de l'instrument orgue. En fait, c'est ça qui me fascine dans son travail. C'est que, comme vous avez pu l'entendre dans ce début, finalement, on entend une sorte de plasticité du son, un son mouvant, un son en mouvement. Et souvent, on reproche à l'orgue justement un peu la rectitude de son son.
Sa masse.
Mais ce qui en fait aussi sa richesse.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez un son qui vous est imposé, qui est droit et qui reste. Et lui, justement, il joue grâce aux boîtes expressives, grâce aussi aux zones non tempérées de certains registres. En fait, vous avez l'impression d'entendre un son qui est en perpétuel mouvement. Et il rend ce son que l'on croit inerte, que l'on croit mort, il lui donne comme ça une vie et un mouvement. Et c'est dans cette œuvre-là, mais je dirais dans son travail en général, le compositeur, vraiment une recherche qu'il pense beaucoup et je crois fondamentalement qu'il ouvre une voie vers la composition de l'orgue et vers un avenir qui, je crois, mérite vraiment tout l'intérêt.
Mmh. Et que des instruments nouveaux comme celui de Radio France, mais même aussi celui de la Philharmonie, vont permettre peut-être d'explorer toutes ces voies d'un orgue du futur. En fait, on parle déjà d'un orgue du futur en parlant de l'orgue de Radio France. Oui.
Tout à fait. D'ailleurs, cette pièce est programmée pour l'année prochaine à Radio France.
On se quitte sur un petit air de jazz, un peu de swing.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
Gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list.
You bet. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through.
New York, New York.
Thomas Hospital, vous avez l'air enchanté. Vous adorez Frank Sinatra, vous adorez le répertoire comme ça du jazz ou...
Je suis absolument un grand fan du répertoire de jazz. J'adore Frank Sinatra, sa voix, sa musique, ses orchestrations. Et j'adore toute cette culture en fait américaine, aussi du musical, etc. Je suis absolument fasciné par ce répertoire.
Faut dire que vous avez été plongé dedans quand même. Vous avez été pendant combien? 2 ans à la Nouvelle-Orléans?
Non, 6 mois.
Six mois. Ah pardon, vous voyez, tout de suite j'extrapole.
6 mois, non, mais j'ai fait plusieurs allers-retours quand même. Même par la suite, et c'est vrai que une fois qu'on goûte, je crois, à cette culture, je crois qu'on n'y sort jamais plus.
Mais surtout que pour l'improvisateur que vous êtes, il y a quand même un pont avec ce jazz entre improvisation, musique savante, musique.
Ah, mais c'est sûr.
Et bon, le swing.
Oui, ce swing perpétuel, c'est aussi cette chaleur dans la musique, dans le sens où finalement, quand j'ai rencontré vraiment des gens qui pratiquaient le jazz à la Nouvelle-Orléans, et Dieu sait qu'il y en a partout. Mmh. Enfin, vous marchez dans la rue, vous ne pouvez pas faire 20 mètres sans tomber sur quelqu'un qui est en train de, avec son tuba seul, je me souviens d'un tubiste devant la cathédrale qui était là en train de groover sur When the Saints à peu près tous les jours. Il était à son poste et il me fascinait. Et en fait, c'est surtout au-delà de la musique qu'ils font, mais c'est, comment dire, la manière dont ils s'intéressent à ce qu'ils font et la manière dont ils sont entièrement dans la musique, dedans. Et ça m'a toujours fasciné. Je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit être aussi, musicien classique.
Super, bon ben Thomas, on est ravis de vous avoir ici en résidence à Radio France. Et puis j'imagine que vous prévoyez pas mal de concerts, donc les auditeurs seront à l'affût. Merci.
Merci.
En 1968, l'Orchestre National de l'ORTF, dirigé par Manuel Rosenthal, enregistrait un disque consacré aux œuvres d'Éric Satie. Nous écoutions l'une des 3 petites pièces montées, Gargantua. Et si vous voulez fêter avec France Musique le 150e anniversaire de la naissance d'Éric Satie, vous pouvez aller écouter sur le site francemusique.fr un feuilleton imaginé par 3 spécialistes de l'homme d'Arcueil, Vincent Bouchot, Denis Chouillet et Nathalie Duong. Depuis l'année dernière, Radio France, en lien avec l'association Musique et Santé, propose aux professionnels mais également aux personnes que le sujet intéresse de comprendre de plus en plus finement la relation toute particulière qu'entretient la musique avec notre cerveau grâce à des cycles de conférences qu'animent les plus grands noms de la recherche sur le sujet. La prochaine conférence a lieu le 4 juin et en guise de préparation, nous avons rencontré des acteurs de ce projet passionnant. Thank you. Isabelle Cano, bonjour.
Bonjour.
Alors Isabelle Cano, vous travaillez ici à la direction de la documentation de Radio France. Et puis en fait, vous pilotez ce projet passionnant, Musique et cerveau, une série de conférences qui ont été initiées l'année dernière.
Effectivement, le premier cycle a eu lieu l'an dernier, qui a émergé puisque la direction de Radio France cherchait à créer des cycles professionnels de conférences. Et il se trouve que j'ai fait partie des personnes qui ont été sollicitées et j'ai donc proposé cette thématique musique et cerveau.
Qui cherchiez-vous à toucher avec ces cycles de conférences ?
Moi-même, ayant une formation musicale et travaillant au sein de Radio France dans le domaine musical, bon, c'est une passion comme tellement de personnes ici dans cette magnifique entreprise où la musique est très présente. Et en fait, personnellement, depuis très longtemps, je me posais des questions sur ma mémoire musicale. Tiens, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas tout à fait comme mon autre mémoire autobiographique. Par ailleurs, les sensations physiques, ce rapport très fort avec la musique, est-ce que ça nous apporte, mais ce qui nous transforme. Je me suis dit assez bêtement que si moi j'y pensais, si c'était des questions que je me posais, sans doute qu'on était nombreux à se les poser. Alors, du fait que moi, je m'intéressais à cette question depuis à peu près une dizaine d'années, donc j'ai commencé à lire des articles et puis des ouvrages, fort heureusement, qui ont été publiés, qui étaient à la portée un peu des néophytes que je suis. Moi, je n'ai aucune formation scientifique. Et en définitive, effectivement, moi, j'avais déjà une liste de noms de gens dont j'avais lu les articles ou des ouvrages.
Et donc, ce sont eux à qui vous avez fait appel ?
Alors, c'est à l'un d'entre eux qu'on a fait appel, en l'occurrence le professeur Hervé Platel de Caen, qui a accepté de nous suivre dans cette assez folle aventure, parce que finalement, nous avons démarré avec rien. Alors, j'avais personnellement imaginé ce premier cycle d'ores et déjà en trois conférences, où je souhaitais qu'on fasse un peu l'état des lieux avec Hervé Platel sur l'état de l'art en neurosciences aujourd'hui sur la musique et le cerveau. Ensuite, il s'agissait de faire le point aussi sur la mémoire, cette question de la mémoire. Et enfin, la musique et la santé à travers notamment la maladie d'Alzheimer. Mmh.
Qui est un peu leur sujet d'étude, c'est un champ d'étude important.
Pour Hervé Platel, en tous les cas, oui. Mmh.
Cette année, trois nouvelles conférences ont vu le jour, donc une qui s'est déroulée en mars dernier.
Au mois de mars, oui.
Oui.
Qui a abordé la question des émotions et de la musique, le cerveau de l'auditeur et le cerveau de l'interprète. Mmh. Alors la deuxième conférence, nous allons parler de créativité, du cerveau du compositeur, que nous allons un peu observer. Et enfin, au mois de septembre, la prochaine, un sujet un peu ambitieux, musique du futur et cerveau du futur.
Vous avez, pour toutes ces manifestations, Isabelle Cano, désiré avoir à la fois des scientifiques, mais aussi des musiciens. Il y a toujours une sorte de personnalité, grand témoin, vous appelez ça.
Oui, c'est Hervé Platel qui coordonne scientifiquement ces conférences. Et nous avions souhaité avoir effectivement un grand témoin. Quelqu'un qui appartient à ce monde de la musique et quelqu'un qui peut lui-même s'être posé des questions sur ses pratiques et ses ressentis et ses propres émotions et de les partager donc avec les scientifiques, les experts et le public.
Ces experts qui sont souvent d'ailleurs musiciens eux-mêmes.
Oui, c'est étrange, n'est-ce pas ? Et pour vous faire un aveu, j'ai constaté que parmi les grands noms de l'expertise en neurosciences en France, ils sont presque tous organistes.
Tiens, c'est drôle.
Oui.
Vous en tirez des conclusions ?
Je vais leur demander.
Donc ça donne envie de chercher d'autres motifs, d'autres sujets de conférence, non ?
Alors, sur la musique et le cerveau, il y a de quoi faire quand même. Hein. On n'a pas fait le tour, si c'est ça la question.
Oui. Donc vous avez peut-être éventuellement une série de conférences en préparation à venir.
Oui, c'est évident qu'on va préparer la saison 3.
Bon, bah écoutez, on attend.
En musique, bien évidemment.
Hervé Platel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de neuropsychologie à l'université de Caen. Et en ce qui nous concerne, vous êtes le grand organisateur de ces conférences musique et cerveau qui se déroulent à Radio France. Alors après un premier cycle de trois conférences qui ont eu beaucoup de succès, je crois, vous organisez année un deuxième cycle de conférences, trois également. Je crois que vous avez un peu posé les fondamentaux l'année dernière avec finalement la découverte un petit peu de ce lien si intime entre la vie de notre cerveau et puis cette activité musicale. Qu'est-ce que cette année vous cherchez à faire découvrir au public ?
Vraiment, ces rencontres professionnelles donc ont trouvé leur public. Alors, quel type de public ? Essentiellement des professionnels dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Et c'est pas un hasard, en définitive, si les sujets relatifs effectivement au lien entre la musique, le cerveau, mais dans le contexte effectivement de l'utilisation de la musique pour le soin, ou dans le contexte, je dirais, de l'éducation musicale, ont trouvé beaucoup d'auditeurs. Une question qui intéresse beaucoup effectivement les psychologues, les chercheurs dans les sciences cognitives, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui nous permet dans notre cerveau de pouvoir être créatif. Alors souvent on a relié la créativité à des traits de personnalité, voire même en grossissant effectivement le trait, non pas de personnalité, mais le trait, je dirais, d'un point de vue scientifique, on a dit oui, en fait les gens créatifs sont des gens presque anormaux, donc on a un petit peu ce stéréotype qui existe. En définitive,
parce que c'est pas vrai. Du point de...
Est-ce qu'il faut avoir une personnalité atypique pour être créatif ?
Ouais.
D'un certain point de vue, sans doute, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller oser, en fait, aller contre les convenances, aller essayer d'aller du côté de frontières par rapport aux normes habituelles, donc dans un domaine. Mais il n'y a pas, en fin de compte, que le côté excentrique qui permet la créativité. Et si on en revient effectivement à des exemples qu'on nous donnera notamment lors de cette journée du 4 juin sur la créativité, on va parler aussi par exemple de discours de grands compositeurs. Il y aura Philippe Manoury, donc qui sera notre grand témoin, qui connaît bien l'œuvre de Pierre Boulez. Pierre Boulez disait effectivement que pour lui, on ne créait rien. Mais en fait, tout était reprise du point de vue de la mémoire. En fait, pour Boulez, il n'y avait pas de création ex nihilo, et il ne croyait pas du tout à une espèce de création spontanée qui émergerait comme ça, liée donc à un réservoir créatif. Pour lui, la création, c'est quelque chose de très construit. Mmh. Donc, on peut avoir différents points de vue sur ce que c'est que la création. Donc, une création qui est liée sans doute à quelque chose d'assez pulsionnel. Et puis une créativité qui est beaucoup plus construite donc à partir d'une démarche intellectuelle. Et entre les deux, y a toute une palette possible.
Mmh. Est-ce que cette interrogation sur la créativité, d'un point de vue scientifique, ne limite pas un peu la notion de mystère, cette espèce de mystère incroyable qu'on a face à cette capacité à réinventer le monde tout le temps ?
Je pense pas qu'on enlève le mystère. C'est comme dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on écoute de la musique et qu'on y prend du plaisir.
Mm-hmm.
Donc on peut être descriptif sur le phénomène et dire, comment ça se passe. On n'enlève pas ce mystère. Et effectivement, pendant pas mal d'années, quand les neurosciences cognitives ont commencé à émerger, j'ai connu ça au début des années 90, quand on rencontrait des enseignants en musique ou des compositeurs. Ils étaient très méfiants sur le fait que les neurosciences commencent à expliquer ce qui se passait dans le cerveau d'un compositeur ou d'un auditeur. Et puis, en définitive, je trouve qu'aujourd'hui, les choses se sont beaucoup modifiées. On trouve de plus en plus d'enseignants dans les conservatoires de musique et de musiciens eux-mêmes qui sont au contraire très intéressés par ce que peuvent dire les neurosciences sur comment, effectivement, la musique nous touche d'un point de vue cérébral. Et les compositeurs eux-mêmes sont intéressés par mieux comprendre, en fin de compte, les mécanismes qui leur permettent d'être créatifs. Il n'y a pas un type de créativité. Je crois qu'il faut s'enlever ça de l'esprit. Il n'y a pas une manière d'être créatif. Il y a plein de manières d'être créatif, comme il y a plein de manières d'être touché par la musique.
Marc-Olivier Nat, bonjour.
Bonjour Dominique.
Marc-Olivier, vous avez été grand témoin de l'une des conférences Musique et cerveau qui sont organisées ici à Radio France sous la houlette d'Hervé Platel d'ailleurs, qui en pense un petit peu les contenus. Je crois que le thème de votre intervention, c'était autour de l'émotivité, c'est ça ?
C'était autour de l'émotion, l'émotion ressentie quand on est musicien et aussi l'émotion du public, la façon dont le public reçoit les émotions transmises par la musique, par le musicien sur scène.
Vous êtes violon à l'Orchestre National de France, donc est-ce que ce sont des questions dont on débat, sur lesquelles on s'interroge ?
Parfois on peut en parler. On avait eu il y a longtemps avec Kurt Mazur un concert fantastique en Allemagne lors d'une tournée. Et on s'était tous posé la question, à la sortie du concert, pourquoi on était dans un tel état. Et puis on a eu l'occasion de dîner avec lui après ce concert. Et lui aussi avait ressenti cette émotion absolument phénoménale sur ce concert très précis. Et lui partait d'un principe que c'est un moment unique où la salle, le public de la salle et l'orchestre avaient porté la musique à des dimensions qui sont... au-dessus de l'humanité, enfin dans un sens très très large, qui emmenait bien au-dessus des contingences matérielles. Alors c'est sûr que lorsqu'on participe à ce genre d'expérience, qui paraît un peu hors... qui sont pas physiques, pardon, après redescendre avec Hervé Platel, lui, il vous explique vraiment ce qui est mis en jeu dans le cerveau, ce qui se passe. Quand vous parlez avec Emmanuel Bigan, il vous expliquera que les émotions... On les connaît depuis qu'on est bébé, même dans le ventre de sa maman, et qu'on est d'une certaine manière conditionné à recevoir, en tous les cas dans le monde occidental comme nous on le connaît, une certaine musique, entre guillemets, classique. Alors elle peut être baroque, classique, mozartienne, ou Brahms, ou même Schoenberg, mais notre esprit est quand même préparé à ça. Il y a une expérience qu'on peut tous voir sur Internet qui a été faite avec Bobby McFerrin, où il explique la gamme pentatonique en se déplaçant sur scène, en faisant à chaque fois une note, et puis il fait un petit saut de côté et une autre note, il la fait chanter au public, il fait faire au public deux ou trois notes de suite comme ça, et puis d'un seul coup il fait un grand saut. Et en fait, tout le monde trouve la bonne note et chante juste sur le grand saut, parce que en fait, on est préconditionné.
Une mémoire
culturelle, une mémoire qui est au fond de nous et qui peut réapparaître comme ça. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, de travailler avec des gens comme Hervé Platel, qui lui travaille aussi sur la mémoire. Et avec son approche très scientifique, grâce à des IRM, est capable de localiser très précisément ce qui fait fonctionner la mémoire musicale dans le cerveau. Par exemple, on sait que la partie hippocampe du cerveau va travailler très spécifiquement sur la mémoire. Alors après, est-ce que quand on est musicien et qu'on est très très vieux, est-ce qu'on est un petit peu protégé sur les maladies de la mémoire comme Alzheimer, etc. Puisque toutes les études ont prouvé qu'on pouvait avoir complètement perdu la mémoire dans cette maladie et se souvenir de chansons d'enfants et être capable de même d'en apprendre des nouvelles, avec des nouvelles paroles, et de retrouver des mélodies. Mmh. Je suis aussi professeur de violon, ça m'intéressait de connaître l'impact qu'on pouvait avoir et la façon dont on pouvait ressentir les émotions, comment faire sortir les émotions, par exemple, chez un élève, autre qu'en lui expliquant, à cet endroit-là, si tu joues du violon, tu fais un petit peu de vibrato, à cet endroit-là, si tu fais un instrument avant, tu ne respires pas, tu respires un peu plus tard, etc. C'était intéressant de savoir que quand on joue nous-mêmes, parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir une part d'instinct, on peut penser que c'est une part d'instinct. Et en fait, quand on parle avec des gens comme Emmanuel Bigan ou Hervé Platel, on s'aperçoit que cet instinct, il est quand même bien travaillé.
Bien inscrit dans le cerveau.
C'est ce qu'on peut ressentir parfois quand on est musicien ou mélomane ou un musicien amateur qui, par exemple, c'est un cas très typique, c'est par exemple Mozart. Par exemple. Mozart, vous passez votre vie à le jouer pour en fait essayer de retrouver la sensation que vous avez eue quand vous l'avez déchiffré en fait. Cette sensation d'instinct tout de suite, de naturel, sur la forme d'apprentissage pour la mémoire par exemple. La façon dont on peut se souvenir des choses, c'est d'associer des éléments qui sont extra-musicaux avec la phrase musicale qu'on est en train d'avoir. C'est vrai que c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'on peut, je me souviens d'avoir parlé longtemps avec Sarah Lemtanou, par exemple, elle associe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, par exemple, à son jeu. danser, donc quand elle joue le concerto de Tchaïkovski ou quand elle joue des grands solos d'orchestre. Et voilà, c'est vrai que c'est important. On avait parlé avec un vieux monsieur qui était violon solo du Philharmonique de Berlin, qui a travaillé longtemps avec Karajan, et qui disait moi, avant un grand solo de violon très difficile, j'ai besoin de penser à quelque chose de très bon. Alors j'adore le chocolat, je pense à du chocolat. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces sortes de là, mais de choses qui permettent aussi
à trouver des couleurs.
Oui, à trouver des couleurs et puis à parfois débrancher des tensions. Je trouve que c'est vrai, on est en train d'apporter, on développe beaucoup, moi j'en suis un des témoins au quotidien, toutes les actions pédagogiques envers le public empêché, mais aussi envers pour les écoles, pour les... Et c'est vrai que de confronter ces nouvelles matières que sont la pédagogie appliquée à un plus grand ensemble que juste
un élève
très particulier, c'est intéressant de confronter avec des matières scientifiques qui, elles, ont une vue très pragmatique de l'apprentissage.
Pour assister à la prochaine conférence qui évoquera donc la créativité, en compagnie du scientifique et professeur au Collège de France Jean-Pierre Changeux, du compositeur Philippe Manoury et de la neurologue Catherine Thomas-Antérion, et bien sûr d'Hervé Platel, il vous faut vous inscrire en allant sur le site de la Maison de la Radio ou celui de l'association Musique et Santé. Tous les renseignements et adresses sont également sur le site de l'émission Fabrication Maison. La chronique de la Maison Ronde. Avec la magicienne du jour, Marie Fauché, bonjour.
Bonjour Dominique. Celle-ci, c'est plutôt une sorcière, Katcheyevna, qui prépare son philtre d'amour. Elle est sévère, Katcheyevna. C'est normal, puisqu'elle n'a pas de cœur ni de douceur. Elle veut que le prince Ivan Korolevitch, en buvant cette potion, oublie sa promise, la princesse Tsarevna, pour tomber amoureux d'elle seule. Cet extrait de l'opéra « Katchaï l'immortel » de Rimsky-Korsakov, ici c'était Valérie Gergiev qui dirigeait l'orchestre du théâtre Kirov, et Larissa Diatkova dans le rôle de la sorcière Katcheyevna.
Alors Tristan et Isolde de Wagner est donné ces jours-ci au Théâtre des Champs-Élysées à Paris par l'Orchestre National de France, dirigé par Daniel Egatti, avec Thorsten Kerl et Rachel Nichols dans les rôles-titres. Et c'est cet opéra qui vous a inspiré une chronique, Marie, sur les filtres d'amour.
Chez Wagner, le filtre, c'est une sorte de breuvage qui étire le temps. Il transforme une minute en une éternité. L'amour n'en finit plus d'être douloureux et délicieux à la fois. Chez Rimsky-Korsakov, on l'a entendu, c'est plutôt une mécanique orchestrale, martiale, on se croirait presque chez Kurt Weill. Et voilà comment Britten évoque le suc magique qui rend amoureux du premier être que l'on croise au réveil. Le glockenspiel et le célesta enveloppent la voix d'Oberon dans un mouvement irréel, cet extrait du Songe d'une nuit d'été, James Bowman. Le filtre d'amour ou de mort, c'est du théâtre. Shakespeare, bien sûr, Le Songe d'une nuit d'été ou Roméo et Juliette. Deux pièces qui ont largement été mises en musique, et ça n'est pas étonnant, parce que cette magie fonctionne vraiment très bien à l'opéra. Il y a comme un passage du théâtre à l'opéra. Au théâtre, le filtre vient nommer le réel de l'amour ou de la mort. À l'opéra, il est le prétexte pour ouvrir la porte à un imaginaire débordant. Au fond, le filtre d'amour en musique invite au rêve, à la féerie. C'est sans doute pour cela qu'il est l'apanage du 19e siècle romantique. On pense à l'élixir d'amour de Donizetti et aussi, et c'est moins connu, à l'opéra d'Auber intitulé Le Filtre, dont le livret d'Eugène Scribe a inspiré celui de l'élixir d'amour. On pense aussi à Hérodiade de Massenet, où le roi Hérode boit un breuvage avant d'être traversé par une vision fugitive de la belle Salomé.
Thomas Hampson et Hérode dans cette version d'Hérodiade de Jules Massenet qu'il chante avec l'orchestre du Capitole de Toulouse que dirige Michel Plasson.
C'est donc à la musique elle-même que l'on attribue le pouvoir du filtre d'amour. Certains compositeurs ont d'ailleurs fait de leur musique la seule et unique potion capable de dire leur amour et même peut-être de séduire l'autre aimé. Je pense à Alban Berg, bien sûr, à sa suite lyrique. Berg écrit à sa muse Anna Fuchs « Quelqu'un d'autre que toi pourrait-il percevoir ce que ces notes veulent dire ?» Pas étonnant alors que l'on retrouve le fameux accord de Tristan dans le sixième mouvement de cette suite lyrique, cette référence à Wagner, cette citation comme le parfum terrible et tragique d'un filtre d'amour. Thank you.
Le quatuor Emerson jouait cet extrait du Largo Desolato de la 6e suite lyrique d'Alban Berg.
Et pour voir ou revoir quels sont les effets du filtre d'amour selon Wagner, rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées ce soir à 18h ou mardi 24 mai à 18h également. On y donne Tristan et Isolde de Wagner avec l'Orchestre National de France dirigé par Daniel Egetti, Thorsten Kerl dans le rôle de Tristan, Rachel Nichols et Isolde. La mise en scène est signée Pierre Audi.
Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Dominique.
Agenda. Les mardis de la musique ancienne, l'émission d'Edouard Forêt-Colfouti sera publique mardi prochain. Et il y aura du beau monde. Trois ensembles y sont invités, l'escadron volant de la reine au titre prometteur, les paladins que dirige Jérôme Coréas et enfin le duo Marc et Angélique Moyon. Lui qui chante, elle à la harpe. C'est au studio 106 de la Maison de la Radio à 20h. La tribune des critiques de disques sera enregistrée comme chaque semaine, jeudi, de 19h à 20h. Et nos amis et critiques y confronteront plusieurs versions de la très belle œuvre « Fosse Interludes » de Benjamin Britten. Vous pouvez y participer, voter ou donner votre avis. C'est au studio 109 de la Maison de la Radio. Ça y est, c'est jeudi 26 mai qu'ouvre le Festival de Saint-Denis, avec un concert qui réunit le chœur, la maîtrise et l'orchestre philharmonique de Radio France. Sous la baguette de Miko Frank, avec la mezzo-soprano Miyoko Fujimura, les voûtes de la basilique de Saint-Denis retentiront de la musique de Gustav Mahler, sa troisième symphonie. Il reste des places sur le site du festival, qui lui dure jusqu'au 24 juin, avec une incursion cette année au Stade de France. Mais oui, nous en reparlerons sûrement dans Fabrication Maison.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Esprit, es-tu là ? Enfin, je voulais dire Jean-Yves, Pat, êtes-vous là ?
Je suis là.
Il est là. En fait, c'est un petit peu une histoire de voyance que vous allez nous proposer
pas,
ce matin.
Pas vraiment de voyance, mais vous savez, c'est ces esprits qui veulent pas quitter. On dit toujours que parfois il y a des âmes qui ne veulent pas quitter le monde dans lequel ils étaient si bien. Eh bien, c'est un petit peu l'histoire de cette chronique ce matin. Puisque les deux dernières fois, nous nous sommes promenés dans la modernité avec Ravel, avec Gershwin, bien entendu. Et la radio s'accroche aussi. Et tiens, je ne dis pas à ressusciter les vieilles lunes, mais à continuer à faire entendre à ses auditeurs, les voix chères qu'ils ont aimées. Et peut-être aussi le répertoire qui allait avec.
Alors, à propos de voix chères, là, c'est une très belle voix que vous nous proposez ce matin. C'est celle de Rosa Poncel.
Rosa Poncel, c'est l'égérie américaine de tout le premier quart du XXe siècle. Elle est d'origine italienne, ses parents ne s'intéressaient pas du tout à la musique et ne comprenaient absolument pas pourquoi cette pauvre fille se mettait à chanter dès qu'elle entendait un son qui lui paraissait harmonieux. Et puis, bon, c'est devenu une des grandes divas new-yorkaises et de la scène américaine.
Alors, on va l'entendre dans quoi ?
Alors, dans l'élégie de Jules Massenet qu'elle a enregistrée avec l'orchestre Victor et Alfred Lennart au violoncelle. C'est une merveille.
Thank you.
C'est en effet quelque chose, cette Rosa Ponzel, soprano, Jean-Yves Pat, merci. Elle chante avec donc l'orchestre Victor sous la direction de Rosario Bordon. C'est un disque Victor Tandem, enregistré dans le New Jersey en 1926.
En 1926, donc on est au tout début de l'enregistrement électrique et on profite de cette voix dans son premier éclat. Elle était née en 1897, si mes souvenirs sont bons. Donc on a vraiment une voix magnifique et déjà qui annonce la grande carrière. Elle meurt dans les années 80.
Ah oui.
Et ça va rester une diva que le monde entier de la scène américaine va s'arracher.
Ouais. Nous sommes toujours dans un éternel retour.
Alors,
revient cette fois-ci?
Alors, qui revient, c'est Hérodiade de Massenet, qui est un opéra qui est un petit peu oublié, mais qui est resté à cause de quelques airs. Et puis, ce qui revient aussi, c'est les grandes questions métaphysiques et spirituelles. Et celui qui arrive, eh bien, c'est Georges Till. Alors, Georges Till, c'est le divo, si on peut
le
dire.
Le divo, ça n'existe pas,
Jean-Yves. Ça n'existe pas, mais je trouve que ça fait masculin de diva. C'est donc une très, très grande voix de la scène française et même internationale. Et là, la curiosité, c'est que ce disque a été enregistré à Londres parce que tous les studios français n'étaient pas forcément équipés comme il fallait en micro. Et donc, on faisait facilement voyage à Londres pour enregistrer des faces qui ensuite sont destinées plutôt au marché français. Encore que Georges Till ait vite été... de ce international.
Ne pouvant réprimer les élans de la foi.
Ne pouvant réprimer les élans de la foi, leur impuissante rage a frappé ton prophète. Seigneur, ta volonté charme sur terre. Salut, salut, premier rayon de l'immortalité. L'infini m'appelle et m'éclaire. Je meurs pour la justice et pour la prison d'argile. Fuyant l'humanité, je vais calme et tranquille pendant la paix d'éternité. Je ne regrette rien. Pourtant, aux faiblesses, je songe à cet enfant. Je songe à cet enfant dont les traits radieux sont présents à mes yeux. Souvenir ma presse, souvenir qui m'apprête. Toujours je songe à cet enfant. Seigneur, si je suis ton fils, Seigneur, si je suis Seigneur,
Georges Till, ténor, orchestre sous la direction de Monsieur Hörter. J'aime beaucoup quand c'est orchestre sous la direction.
Oui, les étiquettes sont assez plus lapidaires. Oui,
c'est un disque Columbia Londres, 1927, et vous me disiez qu'il tournait en
80 tours minutes.
Mais comment est-ce possible?
Eh bien, c'est possible parce qu'à l'époque, il y avait des petites molettes sur le coin des phonographes, qui étaient, vous savez, des moteurs mécaniques, et on réglait à l'oreille les trois quarts du temps, de façon à obtenir la vaillance des aigus. Et je vous rassure, je ne suis pas votre fils.
Nous terminons avec une autre belle voix, celle de Ninon Valin.
Celle de Ninon Valin. Alors, ça a été la révélation de la belle époque, Ninon Valin, l'enfant chéri de Fauré, de Debussy et bientôt du public français. Et à mesure que sa carrière se déroule, sa voix se pare de timbres un peu plus sombres. Et je vous propose de la trouver ici, je ne dis pas à la fin de sa carrière, mais pas tout à fait loin.
Dans Carmen, en 1931.
Carmen, qui est... Alors là, pour être un éternel retour, c'est même presque une scie, à force. Et un air des cartes dans lequel on ne s'attendait pas trop à trouver Ninon Valin. Et vous verrez, c'est bouleversant.
Ninon Valin, cette voix de soprano parfaitement adaptée à ce rôle de Carmen, en fait.
Oui, qui a su sombrer ses couleurs et qui nous rend une présence très dramatique de cette tireuse de cartes qui voit la mort partout.
Donc c'était à nouveau un orchestre.
Un bel orchestre.
Un bel orchestre. Et sous la direction de Ruhlmann.
Oui, François Ruhlmann, qui a l'habitude de travailler depuis quasiment 1910 avec Ninon Valin. Donc c'est une histoire d'amitié en musique que l'on retrouve là.
Disque pâté, Paris 1931.
Mais vous savez tout.
Mais on sait tout. Et alors à la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Jean-Philippe de Frocourt. Tu es sûr du nom ? Je crois bien, un nom pareil, ça ne s'oublie pas. À Chauny, c'est incroyable. À 25 km de chez nous et dans Saint-Saëns. Écoute, on retournera voir l'affiche, tu verras. Cette petite conversation conjugale se passait en 93. Dès que nous en eûmes l'occasion, mon épouse et moi-même retournions à Noyon voir cette petite affiche, discrète, comme l'était lui-même le grand pianiste Sviatoslav Richter. Car il s'agissait bien de sa venue à Chauny, petite ville de l'Aisne, accompagné de l'Orchestre National de Lettonie que conduisait à l'époque Paul Magui. Évidemment, nous nous empressâmes de réserver 3 places pour assister à un tel concert, au programme duquel figuraient 2 concertos de Saint-Saëns, le 2e et le sublime 5e, dit l'Égyptien. C'est avec beaucoup d'impatience que nous attendîmes le jour J, qui arriva enfin. Sur la route qui nous menait vers le Forum, la salle de spectacle de Chauny, nous n'y croyions toujours pas. Et pourtant, lorsque la lumière s'éteignit progressivement, le silence s'installant petit à petit, nous vîmes apparaître, sortant de l'obscurité, une silhouette imposante, se dirigeant d'une allure calme mais assurée vers le piano, accompagnée du chef d'orchestre. Nous eûmes droit à un splendide 2e concerto plein de virtuosité. Puis après l'entracte, Sviatoslav Richter aborda le 5e concerto avec beaucoup de poésie et de délicatesse dans le 1er et surtout dans le 2e mouvement qui s'y prête à merveille. Puis ce fut le moment de bravoure, avec le dernier mouvement, avec son tempo soutenu. Le grand pianiste utilisa toute sa puissance, quasi tellurique, pour marteler les accords qui s'égrenèrent jusqu'à la montée chromatique finale, soutenue par un orchestre précis et au plus près du jeu du pianiste. Quel triomphe pour ce grand homme au soir de sa vie. Le public enthousiaste et déchaîné fit tant et si bien qu'en bis, nous eûmes ce 3e mouvement. J'entends encore mon épouse fredonner le thème principal du mouvement les jours qui ont suivi le concert. Par la suite, nous eûmes l'occasion de parler avec un autre grand pianiste, Cédric Thiberguien, qui nous confiait avoir été présent à ce concert et nous affirmait que le jeu de Richter avait été déterminant pour sa propre interprétation de Saint-Saëns. Le maître était tout simplement venu à la demande d'un ami de la région. Pour illustrer le souvenir musical de Jean-Philippe de Frocourt, nous avons écouté, nous aussi, Sviatoslav Richter, dans le dernier mouvement du concerto numéro 5 de Camille Saint-Saëns, avec lui cette fois-ci, l'orchestre de la radio de Stuttgart, dirigé par Christoph Eschenbach. Cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, que vous alimentez avec beaucoup de constance et de confiance. Je vous en remercie et me fait toujours une joie de vous lire à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Alors nous poursuivons notre étude, notre petite réflexion autour des compositeurs qui écrivent pour le chœur. Il y a aussi tout un champ que vous connaissez particulièrement bien, qui est celui des compositeurs du nord de l'Europe. Et là, il y a un répertoire très vaste. On chante beaucoup dans le Nord.
Dans le Nord, c'est très grand.
Parce oui, c'est
que,
grand.
Et chaque pays a bien évidemment sa tradition. En Finlande, c'est extrêmement fort, en Estonie, en Hongrie. Et quand on remonte en Scandinavie aussi, c'est vrai qu'on a aussi notre tradition. Et on parle depuis quelques décennies maintenant du miracle choral suédois qui porte à la fois sur l'idée que les Suédois chantent et on se demande pourquoi.
Ils chantent bien.
Ils chantent bien. Les compositeurs de notre temps et depuis longtemps s'intéressent au répertoire choral. Et bien évidemment, on a aussi eu des très grands chefs de chœur, des très grands musiciens qui ont vraiment fait en sorte que le chant choral soit considéré non seulement comme une activité amateur très importante et enrichissante, mais aussi vraiment une niche dans la musique savante. Et pour ça, on a beaucoup de chance parce que ça veut dire qu'en effet, on a un grand répertoire, pour moi, qui explique bien, on va dire, ce lyrisme dans le chant choral suédois. C'est tous les romantiques nationaux, c'est-à-dire Stenhammar, Peterson Berger, Hugo Alvén, on a tous ces compositeurs-là qui, peut-être pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la musique chorale, ne sont pas si familiers que ça. C'est vrai qu'on n'a pas produit en Suède un Grieg ou un Sibelius, mais on a ces compositeurs-là qui, quelque part, mettent en valeur cette ferveur pour le chant en soi, avec une connexion très directe à la nature, à la douceur du paysage, à la vie, on va dire, traditionnelle, liée aux tâches quotidiennes, mais également à la spiritualité, à la Scandinave. Donc, vous savez, on est un pays luthérien. Enfin, on était un pays luthérien pendant ce temps. Et puis, on a eu, dans les années 50, par exemple, avec un chef comme Erik Eriksson, quelqu'un qui a non seulement mis en valeur tout ce répertoire, mais qui est également allé fouiller les archives. Il a retrouvé des chants, même allemands, qui étaient chantés par personne. Donc, il a aussi montré...
Fait revivre.
Voilà, oui. Il a fait revivre tout un répertoire. Par exemple, l'œuvre chorale de Max Reger était plus ou moins méconnue dans le monde. Et c'est grâce à Eriksson où cela a pris vie. Et il a aussi été extrêmement actif, dès les années 50, dans la commande et la création de nouvelles pièces. Donc, pour les Suédois aujourd'hui, chanter, faire la musique chorale, ça veut également dire aussi faire la musique de son temps dans lequel on vit. Et pour moi, ça, c'est précieux aussi.
Pour illustrer Question de cœur, aujourd'hui, nous écoutions une pièce du compositeur Willem Stenhammar et c'est l'ensemble Accentus dirigé par Laurence Equilbet qui a étudié avec le chef suédois Erik Eriksson qui interprétait ces deux pièces du compositeur. Enfin, il y a des places à gagner pour le premier des deux concerts de départ du chef d'orchestre qui depuis 8 ans dirige l'Orchestre National de France, Daniele Gatti, le jeudi 2 juin à l'Auditorium de la Maison de la Radio. Au programme, l'une de ses œuvres fétiches, la symphonie numéro 8 d'Anton Bruckner. Pour gagner des places pour ce concert, il vous suffit de nous écrire sur la page de Fabrication Maison sur francemusique.fr. Voilà, c'est la fin d'une émission qui a été réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Manuel Couturier, de José Bernays, ainsi que de Philippe Abel de France Bleu Camp. À très vite !